vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais.
Bonjour et merci d'écouter Mieux vaut tard que jamais sur CFM Radio. Aujourd'hui, c'est la gastronomie et les arts culinaires qui sont au menu de ce numéro où nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'Association des cuisineries françaises. Une association nationale qui a été créée il y a plus de 30 ans maintenant et dont les principaux objectifs sont d'œuvrer pour le respect de la qualité culinaire d'une part et d'autre part pour le respect aussi des produits et des traditions. Aujourd'hui, cette association compte plus d'une centaine de restaurateurs et d'artisans du goût, de la fourche à la fourchette ou de la terre à l'assiette. Les cuisineries françaises fédèrent et défendent celles et ceux qui font vivre la gastronomie française. Dans le Tarn, où les cuisineries françaises ont leur siège social, tous les trimestres, un repas à plusieurs mains est organisé en itinérance chez un des restaurateurs membres. Ces dîners, appelés les dîners des chefs, sont ouverts au public et coûtent en moyenne 80 euros par personne pour 7 plats, de l'entrée au dessert, plus une mise en bouche, un troupa normand, du fromage et des vins locaux qui sont à déguster à volonté. Le 16 mai dernier, ce dîner des chefs s'est déroulé au restaurant L'Épicurien d'Albi. Nous ferons connaissance avec chacun des chefs qui y a participé et ils nous résumeront la recette du plat dégusté ce jour-là par les convives. Mais pour nous introduire à cette démarche et aux actions des cuisineries françaises, je me suis entretenu avec son président, M. Claude Izard.
M. Izard, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Alors, on se retrouve pour ce qui est maintenant un rendez-vous presque traditionnel, hein, une fois par trimestre, des chefs qui se réunissent pour ce qu'on vous qualifie de dîner des chefs. Alors, nous sommes ici à l'Épicurien d'Albi, sur la place Jean Jaurès, et le thème, il est bien de saison, c'est le printemps. On commence peut-être par présenter le principe de ces dîners.
Alors, ces dîners, c'est des dîners qui sont par saison. Il y a le printemps, estival, automnal, après automnal, à l'entrée de l'hiver, le gibier. Et en janvier-février, la truffe. Le dîner de la truffe, donc c'est vraiment par saison. Et on essaye de le faire un peu partout dans le Tarn, avec des chefs, des cuisineries.
Oui. Donc il y a en général quoi, 7 chefs hein, qui cuisinent.
5, 6, ça dépend de la disponibilité. Mm-hmm. Mais là, ce soir, il y en a qui ont notamment un qui vient de rentrer chez nous, là, la fourchette à droite, à côté du musée d'Albi. Là. Il a beaucoup de travail, donc il a préparé son dessert, mm-hmm. puisqu'il nous fait des desserts. Et donc, il viendra peut-être à la fin, s'il a le temps. Enfin, tous les chefs, en principe, viennent. Les plats sont plus ou moins préparés. Ça dépend. Le gigot d'agneau, bien sûr, il va être cuit ce soir. Les riz d'agneau, on a commencé à les faire, on le finira. Mais tous les plats ont été faits par les chefs à partir de produits bruts. Mm-hmm. C'est vraiment le fait maison, transporté, mais c'est le fait maison.
Ça vous tient tellement à cœur, ce fait maison, ce produit de saison aussi, hein, qui permet de goûter des produits, non seulement qui font du bien au corps, mais qui font aussi du bien au palais.
Ben oui, je crois que de toute manière, on parle toujours de circuits courts, de produits locaux. Ben, l'avantage des produits locaux, les circuits courts, c'est que c'est des produits qui arrivent à la saison. Donc si on suit les saisons, automatiquement, on utilise les produits locaux. On va pas chercher les produits à Tamandracette ou je sais pas où. On les a autour de nous dans le Tarn. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à développer un maximum cette traçabilité, cette filière alimentaire artisanale qu'on est en train d'essayer de construire avec l'État. Une filière à côté de la filière agroalimentaire industrielle. On n'a rien contre l'industrie, mais il vaut mieux quand même préserver l'artisanat. Et là, à ce niveau-là, aujourd'hui, il y a des avancées fantastiques qui vont avoir lieu, j'espère. Il y en a une extraordinaire, mais je vous le dirai à la fin. Mais vraiment, si elle se paie, celle-là, c'est vraiment un combat de 40 ans qui arrive à beaucoup.
Alors, toutes ces idées émergent de l'association Les Cuisineries Françaises, hein, qui fédère non seulement des chefs cuisiniers, mais pas seulement, mais on parle de tous les artisans du goût. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association?
Alors, artisans du goût, si vous voulez, au départ, on s'appelait les tables gourmandes tarnaises, en 75. Ensuite, bon, on a voulu faire un peu plus grand, on s'est appelé les restaurateurs de métier. Donc, l'artisanat, pour nous, c'est ce qui comptait, l'artisanat. Des provinces françaises, c'est les provinces, c'est le terroir, c'est les régions. Et après, en voyant qu'on n'arrivait vraiment pas à être inscrit au répertoire des métiers, on a créé les cuisineries. Pourquoi pas? Boucher, boucherie, charcutier, charcuterie, pâtissier, pâtisserie, donc cuisinier, cuisinerie. Et on a créé les cuisineries pour vraiment identifier le métier de restaurateur artisanal. Et puis là, ma foi, il y a des choses qui ont évolué. On a pu rentrer à la Chambre des métiers depuis pas longtemps. On a le fait maison qui a été, il y a un arrêté qui précise ce que doit être le fait maison. Le fait maison, c'est une fabrication dans la maison, bien sûr, à partir de produits bruts non transformés. Et donc, à ce moment-là, on peut, c'est des plats faits maison. Et là, bon, je peux le dire maintenant, hein, ce qui va arriver sûrement dans peu de mois, c'est que le mot restaurant ne pourra être affiché que sur des établissements tenus par un professionnel qui sera un restaurateur. Ça sera aussi validé. Et le mot restaurant s'appliquera donc à cet établissement parce qu'il fera tout maison. Ça veut dire que ça sera l'apogée pour l'artisanat. Parce que c'est ça qui est important. C'est l'artisanat, c'est notre objectif. Et là, on est en train de vraiment d'arriver à... si on arrive, je pense que ça va se faire dans très peu de temps.
C'est un peu une lutte, on a l'impression, sans avoir de soucis avec on va dire, cet outil technologique. C'est un peu une lutte contre le micro-ondes, j'ai l'impression.
Ben oui, c'est ça. Hein. Pas contre le micro-ondes, mais nous, on ne va pas aller voir les ménagères. Non, je pense que c'est surtout une lutte pour préserver nos traditions et nos savoir-faire. Bon, le micro-ondes, ma foi, moi, ça me... Mais surtout, c'est que si l'artisanat n'existe plus, ça veut dire si les artisans qui fabriquent se disparaissent de plus en plus, il n'y aura plus de transmission de savoir-faire. C'est pour ça aussi qu'on a prévu de faire, bon, ça sera sûrement beaucoup plus difficile, un conservatoire par région, mais bon, nous, déjà, on le ferait en Occitanie, à Albi, un conservatoire de la gastronomie, ça veut dire c'est un lieu où on mémorise nos traditions, avec la présentation des produits qu'on doit utiliser pour faire ces traditions. On le filme et ensuite on le transmet. Et on le transmet à des jeunes, à des moins jeunes, à des cuisiniers de collectivités, parce que je ne sais pas si vous avez vu, les collectivités aujourd'hui, dans les départements, dans les régions, de plus en plus, font tout ce qu'ils peuvent pour utiliser des produits locaux. Mais si le chef, si le professionnel qu'ils ont dans leur cuisine collective n'est pas qualifié, mais ça sera difficile à faire. Tandis que nous, notre objectif, justement, c'est de donner à ces gens-là une qualification pour pouvoir transformer les produits et faire des produits et des plats que à l'hôpital, j'ai passé quelques temps il n'y a pas longtemps, on appréciera dans les écoles. Enfin, ces gens-là, en plus, sont des gens qui, malheureusement, souvent sont venus dans ces lieux collectivités, cuisiniers des collectivités. Beaucoup y vont parce que dans nos métiers, c'est vrai que les horaires, bon, c'est très difficile, vous le savez. Hein. C'est d'ailleurs ce qui nous pose des problèmes pour le personnel. Mais ils trouvent une qualité de vie qu'ils n'ont plus dans nos entreprises et dans notre métier. Et donc, ils ont quand même un manque pour leur qualification. Donc voilà, c'est fait un peu pour des ménagères qui voudront voir comment on fait des riz de veau, comment on fait des riz d'agneau, comment on fait un dessert. Et même, on a prévu, cette cuisine, ce sera un grand plateau avec des postes pour travailler. Et derrière, il y aura des gradins où pourront venir un quart d'Américain voir comment on fait le cassoulet, ou un quart de Japonais, hein, tiens. Ça veut dire qu'on va se servir de ce lieu de formation pour en faire un lieu de communication pour notre terroir et pour notre le Tarn et l'Occitanie.
Si je ne m'abuse, c'est aussi à l'association des cuisineries que l'on doit le label Ville Gourmand, que l'on voit d'ailleurs aux entrées quand on vient, par exemple, à Albi ou à Montauban. Ça signifie quoi, ce label? Comment est-ce qu'une ville obtient ce label de ville gourmande?
Alors, les villes qui veulent, ou les villages, hein, les cabanes est encore au village gourmand parce qu'il y a le restaurant, le jardin de saveurs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins un établissement cuisinerie. Maintenant, on a artisan du goût. Il faut qu'il y ait aussi un artisan du goût dans les petits villages. Et dans les grandes villes, il faut au moins 5-6 artisans du goût et une ou deux cuisineries. Et dès l'instant où il y a ces gens-là, on donne et puis aussi que la ville accepte de faire ou fasse des événements. Dernièrement, on est allé mettre le panneau Ville Gourmande à Roquebrune-sur-Argens, c'est à côté de Nice. Et si cette ville, faut voir, elle fait des événements autour de la gastronomie extraordinaires. Dans le Tarn, à côté de Dourges, je ne me rappelle plus le lieu, ils vont faire à l'automne un gros événement et il est possible qu'eux aussi demandent le panneau Ville ou Village Gourmand. Et par contre, vous avez des restaurateurs aussi, comme qui vient de rentrer, là, qui est super d'ailleurs, un jeune, le Colvert à Saint-Lieu-les-Lavaures. Et lui, il veut que son village, ou peut-être même on va donner le label gourmand au territoire. Ça veut dire que c'est un territoire, le territoire Tarn d'Adou, je crois, en fait, je ne me rappelle pas bien. Pourquoi on ne donnerait pas le label territoire gourmand? Et à ce moment-là, on affiche aux entrées du territoire, ça, et ça permet aussi, peut-être au maire, il y a une dynamique autour de la gastronomie. Je crois qu'il vaut mieux ça qu'implanter des grandes surfaces ou des fast-food ou tout ça, quoi.
La gastronomie est au menu de ce numéro de Mieux vaut Tarn que jamais. Nous sommes au restaurant L'Épicurien d'Albi à la faveur du dîner des chefs organisé tous les 2-3 mois par l'association des cuisineries françaises qui réunit à la fois des restaurateurs et des artisans du goût. Et nous sommes toujours en compagnie de Claude Izard, le président des cuisineries françaises, qui nous explique comment devenir membre.
Il faut le demander, bien sûr. Et puis après, accepter un contrôle de Bureau Veritas. Bureau Veritas vient et regarde, on a un cahier des charges, d'ailleurs on a un cahier des charges pour tous les métiers, boucher, charcutier, pâtissier, boulanger, un cahier des charges pour les restaurateurs, bien sûr, mais aussi un cahier des charges, et ça c'est beaucoup plus difficile, pour le monde rural. Quand on a fait le cahier des charges pour le monde rural, par exemple pour l'élevage, pour le veau, pour la vache, pour le porc, on a fait ça avec la Chambre des métiers et on a fait ça avec des présidents. Donc on a écrit par rapport à ce qui doit se faire. Alors les nourritures, on marque les nourritures des animaux. Bon, on n'a pas été voir les écologistes quand même. Mais enfin, on a mis des choses qui doivent être et d'autres qui ne doivent pas être. C'est comme dans la terre, on sait que bon, voilà tout ça. On essaye d'être, concret et aussi efficace et en même temps réaliste, quoi. Mais il y a des exigences. Et c'est vrai que ça pose quelques problèmes par rapport à certains.
Alors ces dernières années, on a vu fleurir un certain nombre d'émissions à la télé, à la radio, dans les rayons des librairies. Tout le monde parle de cuisine, des livres de recettes qui sortent en veux-tu en voilà. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution de ce métier aujourd'hui ?
Mais le drame, je crois que plus on parle des choses et plus elles disparaissent. L'artisanat, on l'entend partout. Et l'artisanat, ça disparaît partout. Les menuisiers, tous les métiers ont des gros problèmes de succession et de trouver des gens qui veulent travailler dans ces métiers-là. L'artisanat a un gros souci de transmission parce que c'est des métiers qui sont, pourtant, il y a des années, l'artisan, c'était quelqu'un, le compagnon, tout ça, ça avait un symbole. Et aujourd'hui encore, ce symbole, il existe. Le drame, c'est qu'il y a des endroits. Peut-être à l'éducation nationale, à un certain moment, quand on fait l'orientation des jeunes, on ne leur parle pas de ces métiers-là. On leur dit il faut que vous ayez le bac, il faut que vous arriviez à des niveaux intellectuels importants pour réussir dans la vie. Je pense que même un gars très intelligent ou une fille intelligente, elle peut très bien réussir et réussir bien dans des métiers manuels. Il n'y a pas de raison, et ce que je leur dis, moi. Et en plus, elles peuvent avoir la chance d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir une pâtisserie, d'ouvrir une boulangerie, et d'avoir des clients, et de gagner sa vie correctement. Après, ça demande des sacrifices pendant l'exécution du métier. Mais après, on demande un mois de congé, et comme je disais à mes collègues restaurateurs, à l'époque, je dis, on travaille le soir, mais on ne travaille pas l'après-midi. Quand il y a les matchs de rugby, tu les vois. Sur l'après-midi.
Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Ah oui. Mais est-ce qu'on peut faire vraiment un retour dans le passé pour que vous nous rappeliez comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce métier-là?
Ah ben moi, je suis tombé dans la soupe. Ça veut dire que ma mère, mon père, tenait aux cabanes, vous savez, chez Baba. Ça, c'était à ma sœur qui l'a tenue pendant longtemps. Donc moi, je suis là, c'était les cabanes. Mon père et ma mère, j'avais 11 ans, 12 ans. C'est vrai que quand j'étais à l'école, j'achetais des bouquins. Enfin, je regardais des trucs de la cuisine, c'est vrai. Ça m'a toujours passionné. Peut-être de voir ma mère, j'en sais rien, mais je sais que ça m'a passionné. Et à 12 ans, mon père, à l'époque, on cultivait des cornichons dans la campagne, et lui, il allait ramasser les cornichons, il les amenait à Saint-Antonin, il y avait la mise en barrique, enfin, il mettait dans du vinaigre des cornichons. Et donc, il ramassait les cornichons, il allait souvent à Saint-Antonin, et à Saint-Antonin, il y avait un très très bon restaurant, avec un très bon chef, qui s'appelait le Nobleval à l'époque, et ce chef était un associé super. Et donc, mon père a dit, tu vas y aller pendant les vacances, à 12 ans. Hein. À 12 ans, bon, j'étais grand, mais bon, je suis allé là à 12 ans, commencer à travailler là. Après, bon, je suis parti à l'école hôtelière. Et de l'école hôtelière, j'ai continué. Et bon, et voilà. Après, j'étais prof pendant deux ans, dans Côte d'Or, à Dijon. Enfin, j'étais prof, c'est bizarre, parce que c'est une histoire de fou. Je travaillais à Paris, je travaillais à Orly. Et après, je voulais aller travailler à Paris. J'avais trouvé une place. J'habitais à Altismons, donc c'est pas très loin d'Orly. Et puis, j'ai trouvé une place dans Paris. Ben, je ne pouvais pas y aller. Ma voiture, un jour, je l'amène au garage. Il me dit, le culbuteur, il est pété, c'est foutu, j'avais une vieille ronde. Et comme je ne pouvais plus aller travailler, et comme j'avais remarqué les annonces, je cherche professeur, diplômé, à Semur en Auxois, à côté de Dijon. J'ai écrit, et ils m'ont dit, vous pouvez venir. Trois jours après, ma bagnole, elle marchait. Mais tant pis, je suis parti. Je suis parti quand même en Côte d'Or, où je suis resté deux ans. Et c'est incroyable, le fait d'être professeur, ça veut dire de transmettre aux autres la confiance que ça donne en soi. Moi, on m'aurait dit à cette époque-là, avant que j'y aille, tu prends une affaire, je ne me serais pas senti capable. Là, pendant deux ans, en plus j'avais beaucoup de filles, c'était pas mal parce que c'était vachement gentil, et quelques garçons, là je me marrais pas mal parce qu'il y en a certains qui faisaient des malins, j'appelais la fille qui était soi-disant la plus bête, je dis viens lui faire voir comment on fait. Alors là, les garçons, ils étaient tchit. Et donc, et ça donne une confiance en soi. Et après, je suis venu à l'hôtel du Parc. La première année, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait des petits soucis avec le propriétaire. Et puis la deuxième année, je l'ai pris et j'ai pris l'hôtel du Parc, donc, en 1967.
Et voilà. Alors vous avez mis le doigt sur quelque chose qui m'a permis de parler un peu de la parité dans ce métier-là. Autant le stéréotype voudrait que la femme, c'est la ménagère à la maison, etc. Autant dans le monde de la restauration, on se dit, elles sont où les femmes finalement? On n'en parle pas beaucoup, des chefs étoilés.
Oh, je ne suis pas étoilé, mais il y a des femmes qui suivent. Il y a beaucoup de femmes dans nos métiers et souvent, elles sont souvent en cuisine, peut-être pas mises en valeur comme elles devraient l'être, mais il y en a quand même quelques-unes. Hein. Et puis voilà, et puis peut-être que, je ne sais pas, c'est comme ça. Ouais. Après, au lycée hôtelier, je me souviens, il n'y avait pas beaucoup, c'est vrai, de femmes. Mais c'est un métier qui est quand même dur, la restauration. C'est dur, il y a le samedi et le dimanche, et puis si elles ont des enfants, bon, c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'après, vous avez Hélène Darroze, vous avez des femmes qui sont dans la région. À l'époque, il y a madame. Regardez, à l'époque, c'était en 65-66, à Vendrac. Vous voyez Vendrac? À la gare, il y avait un petit restaurant qui s'appelait chez madame Vialard. Et cette dame, elle avait une renommée. C'est son mari qui avait créé ce restaurant. Malheureusement, il est décédé. Et elle a continué. Elle faisait une sauce, d'ailleurs, que moi, j'ai continué. Je me suis inspiré pour faire ma sauce poisson, une réduction de crème. Bon. Et elle faisait une cuisine, vraiment. Elle a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était une femme. Et en même temps, alors c'est peut-être la destinée dans nos régions, à Cornes, vous aviez Madame Vergne, le vieux Cornes, c'était un monument. Ce restaurant, c'était un monument. Cette femme, il faut voir le boulot qu'elle a fait, quoi. Et au cabane, il y avait ma mère qui était en cuisine, donc il y avait des femmes partout. Là.
Alors, je sais que vous êtes un homme de terroir, hein, vous aimez bien ces recettes de tradition qui d'ailleurs, pour certaines, tendent un peu à disparaître. S'il y avait comme ça quelques recettes que vous aimeriez faire connaître au plus grand nombre, ce seraient lesquelles ?
Les recettes, il y a les riz de veau, les riz d'agneau qu'on mange ce soir. Après, les sauces qu'on peut faire avec du poisson, celle que je vous dis, là, une sauce poisson qui est faite avec une réduction de vin blanc, de fumée, de crème fraîche, on le monte au beurre. On fait un sabayon c'est des jaunes d'œufs avec un vin blanc, on les fouette, il ne faut surtout pas qu'ils cuisent, et on y incorpore la réduction, et ça fait une sauce. Vous la passez à la salamandre, ça gratine, c'est génial. Un poisson, justement, un filet de turbo, n'importe quel poisson, un filet de merlu, un filet de n'importe quel poisson, on ne le fait surtout pas trop cuire, et donc là, on voile avec cette sauce, on le passe, ça dort au-dessus, en même temps ça finit un peu la cuisson. Ça, c'est vraiment génial. Même avec les huîtres. Hein. Avec les huîtres, on fait une duxelle de champignons. On fait fondre les échalotes. On y met les champignons hachés. On y met un peu de crème. Après, on met l'huître, on l'ouvre. On y met la duxelle dessus. On le met au four. Et au dernier moment, on nappe avec ça, gratiné. Les huîtres chaudes, c'est super.
Alors, là, maintenant, je vais plus vous orienter sur ce que je voudrais entendre. Deux recettes d'Occitanie par excellence.
Il y a le cassoulet, hein, ça c'est une recette occitane. Pour moi, en dessert, il y a la croustade qu'on connaît, la croustade aux pommes, le cabessal, vous connaissez.
Alors, présenter les deux, les ingrédients.
Bon, ben, le cassoulet, c'est facile, hein, c'est de l'agneau, du confit, de la saucisse. On le fait, d'abord, on prend les haricots, on les fait tremper une nuit, des lingots. Une nuit, bon, après, on peut prendre des lingots de... Après, on y met on les fait tremper toute une nuit à l'eau. Et le lendemain, on fait un bouillon avec carottes, oignons, ail, bouquet garni. Et après, dans ce bouillon, légèrement tiédi, on rajoute les haricots, on les refait cuire. Et quand ils sont pratiquement cuits, après, on met ça dans une terrine, un confit, on y met la saucisse. Moi, je la mettais, la saucisse, je la faisais juste poêler pour qu'elle soit colorée. Je la mettais dessus, la partie le moins colorée. Et après, on mettait ça au four. Et des couanes aussi, n'oubliez surtout pas. Oubliez des couanes, parce qu'il faut que ce soit toujours un peu gras. Des couanes, et voilà, et on fait ça au four. Par contre, la croustade al cabessal, ça c'est plus compliqué. Mais il suffit la veille de couper les pommes très finement, avec du rhum et du sucre. On les fait tremper toute la nuit. Enfin, on les fait macérer toute la nuit. Et le lendemain matin, avec le jus de macération, on fait une pâte avec de la farine, le jus de macération, du beurre fondu. On mélange, deux jaunes d'œufs, on mélange bien. Et après, on étale, alors on étire la pâte. Il faut l'étirer pour que, quand on la tire comme ça, c'est fait comme si vous aviez une nappe toute fine, vous la mettez sur la table. Et après, dedans, vous y mettez les pommes et on roule, comme ça. On roule et après on enroule. Et en l'enroulant comme ça, les vignerons, pour porter le truc sur la tête, ils mettaient le cabessal. Et le cabessal, c'était un torchon étalé, roulé et enroulé. Et là, la tarte, la pâte, elle, farcie avec les pommes, elle est étalée. Donc les pommes roulées et enroulées. Après, on le fait cuire au four. Au bout de 40-45 minutes, on la tourne une fois qu'elle est bien saisie dessous. On la tourne et on la remet au four. Ça veut dire que la partie qui était dans le jus, on la retourne, donc on va le faire dorer. Et la partie qui était dorée, elle va imbiber dans le jus. Donc c'est croustillant, moelleux, c'est génial. Et il faut du rhum et de la fleur d'oranger dans la macération des pommes.
C'est une recette de quelle région, ça?
Ah, ben c'est ici, ça. Croustade al cabessal, c'est Corne. C'est vraiment chez nous, ça. Et le croquant, hein, le blanc d'œuf avec le... Mais après, la viande, c'est vrai qu'il y a le cassoulet, mais... Moi, à l'époque, je faisais la matelote d'anguille au CP sec. On faisait beaucoup de spécialités, les riz de veau, les riz d'agneau. Tout ça, c'est des plats traditionnels avec des produits de chez nous.
Bon, alors pour ce soir, vous avez prévu une poêlée de riz d'agneau au CP sec. Comment est-ce qu'on décortique cette recette-là?
Alors là, les riz d'agneau, il faut, bon, normalement, il faut le maximum de. Le riz, il y a une chaînette, et puis la noix. Si on n'a que la noix, c'est mieux, mais bon, quand on achète les riz, il y a tout. Donc, première des choses, on les fait tremper dans l'eau, et après, le lendemain, on les met dans l'eau froide, et on les porte à ébullition, on les blanchit, après on les pèle, il faut enlever toute la peau, et après, on les poêle Entre-temps, on a fait, on a un fond de veau. Bon, le fond de veau, c'est du bouillon de veau. Donc, le fond de veau, on le fait bouillir. On le lit légèrement, comme on fait le béchamel. Hein. Du beurre, de la farine. On met le fond. On le fait bouillir. Et parallèlement à ça, on poêle les riz d'agneau. Qu'ils soient bien, bien dorés. On y met dedans de l'échalote haché avec du persil haché et de l'ail. On le met dedans, on poêle, on le fait sauter, on le met dans la sauce qu'on a épaissie. Et à la fin, on lit cette sauce-là. Et, pardon, quand on a mis la sauce, qu'on a lié la sauce, à l'intérieur, on y met des cèpes secs. Et on le laisse bouillir un peu dans les cèpes secs. Après, on met les riz d'agneau et après, on fait cuire.
Ce que l'on va goûter entre autres plats tout à l'heure pour ce dîner des chefs spécial printemps. Merci beaucoup, Claude Izard, le président de l'association des cuisineries.
Quand il n'y aura plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu, dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers, premier mot de la première heure, première minute d'un bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges, aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous deux bouge. Couché sur les fourmis rouges. Tu n'auras jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, te fais pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères, quand on s'aime, ils nous aiment aussi. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur, au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous debout est couché sur les fourmis rouges.
Merci d'être venus aussi nombreux. On a le plaisir de s'accueillir ce soir par M. Ricard.
Discours de bienvenue et d'introduction de Claude Izard, le président de l'Association des cuisineries françaises, lors du dîner des chefs organisé le 19 mai dernier au restaurant L'Épicurien d'Albi. Un discours lors duquel il va présenter chacun des chefs présents qui a participé à ce dîner et qui a concocté un plat aussi. Des chefs qui vont à tour de rôle expliquer leur recette. Eh bien, c'est ce que je vous propose maintenant d'écouter sur CFM Radio, en commençant par Ricard Hult, qui officie dans les cuisines de l'Épicurien d'Albi.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Bon, ceux qui ne connaissent pas déjà l'établissement, Ricard, est-ce que tu peux nous situer et puis nous présenter un peu ce que vous faites ici? C'est un restaurant, on va le dire.
C'est un restaurant, oui, oui, bien sûr. On est là depuis 2004, ici à Albi. Place Jean Jaurès, plein centre-ville à Albi, oui.
Bon alors, là, on va parler un peu après de ce que vous proposez pour ce dîner des chefs particulièrement. Mais comment présenter l'épicurien, la carte, ce que l'on mange habituellement ici ?
Ben écoute, je trouve que ça a évolué un peu depuis son ouverture. Partie 2004, donc on était parti assez gastronomique. On essayait à tout moment de faire des petites choses. Mais après, avec l'évolution et aussi peut-être l'attente de la consommateur, tout s'allège un peu. Les gens, en tout cas moi je pense, après ce que je dis c'est pas une vérité, mais moi je pense que les gens cherchent quelque chose un peu plus allégé aujourd'hui, moins compliqué, plus essentiel.
Et plus accessible aussi peut-être, non ?
Plus accessible, on a vu que notre clientèle s'est vachement rajeunie depuis. Depuis qu'on a pris un nouveau tourneur à l'épicurien aujourd'hui, tu peux manger un burger, tu peux manger un pigeon de Montréal, tu peux manger une tartare de bœuf, tu peux manger des langoustines. Donc on essaie d'ouvrir la porte au plus large aujourd'hui. C'est vrai que depuis qu'on le fait, ça marche bien.
Voilà. Bon, quelle est votre touche personnelle dans tout ça ? Parce que un burger qui est mangé à l'épicurien, j'imagine que c'est pas le même qu'on va manger à côté. Quelle touche personnelle vous essayez d'apporter dans ces, on va dire, recettes qui sont plutôt connues de tout le monde ?
Je sais pas si c'est une touche personnelle. Bon, déjà, avec l'accent, on soupçonne quand même que je viens d'ailleurs. Donc, je viens de Suède. Est-ce que ça, c'est une touche personnelle ? Peut-être pas sur certaines choses, peut-être. Ce qui est important pour nous ici, c'est la fraîcheur, la simplicité, l'exigence des produits et aussi quand on le cuisine, c'est-à-dire qu'on veille à un assaisonnement qui doit être parfait. On veille que tous les aliments dans l'assiette servent à quelque chose et même quand on fait un poulet avec une pomme purée, quelques petits pois ou quelque chose comme ça. On essaie que les trois éléments, le poulet, il est vachement croustillant, un peu juteux dedans. Le mousseline, il est onctueux, bien assaisonné, un peu presque crémeux. Et les petits pois, on a déjà échalotes dedans, de beurre, de sel, de beaucoup de poivre noir. Donc, on fait pas une cuisine. Je trouve pas que notre cuisine elle est compliquée. Je trouve qu'elle devient de plus en plus accessible et simple. Le fait que je viens de notre pays, peut-être on demande à quelqu'un qui vient d'ailleurs à amener quelques plats d'ailleurs aussi. Donc c'est vrai que la cuisine scandinave de temps en temps on le fait. Mais même un ceviche de Pérou, des plats un peu japonaisants. Donc c'est vrai qu'on essaie à se balader, mais c'est plus par envie presque personnelle du coup, parce que j'ai envie de manger ça et on le cuisine. Avec donc des produits le plus local possible.
Alors tu m'as tendu une perche que je suis obligé de saisir. Tu as parlé de la Suède et je me rends compte que je ne connais rien de la gastronomie suédoise. S'il fallait citer deux, trois recettes un peu emblématiques de la Suède.
La plus emblématique, la plus exportée, je pense que c'est le saumon gravlax. C'est un saumon qu'on marine avec sel et sucre, un peu de poivre à net pendant un paire de jours. Donc pas à huile comme on peut faire ici en France. On sert ça avec une sauce un peu aigre-douce, mais avec de la moutarde un peu aigre-douce, quelques petites patates et un peu d'aneth. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... Bon, après, tu as toute la partie du nord de la Suède où il y a une grande faune, même en semi-liberté, on va dire, de rennes, avec beaucoup de baies, de champignons, des choses comme ça. La harangue joue une place essentielle chez nous aussi. À l'époque, on le mangeait presque quotidiennement, la harangue, parce qu'on arrivait à le conserver. On utilise beaucoup de sel et beaucoup de vinaigre blanc d'alcool, par exemple, chez nous, et de sucre, pour justement pouvoir conserver des choses.
Comment vous êtes arrivé à ce métier-là, à la cuisine ? Vous vous rappelez ?
Oui, je me rappelle. J'étais très intéressé par les pâtisseries quand j'avais 10, 11, 12 ans. Mais à 14 ans, j'avais fait un stage. J'ai fait un stage dans une cuisine et je trouvais ça c'était un peu plus vif, vous voyez ? Un peu plus de punch, un peu plus d'action. Après, bah, écoute, comme je ne travaillais pas à l'école, il fallait que je commence à travailler à 15 ans et je rentre dans un hôtel. Et voilà, je fais le petit déjeuner pendant un an et demi. Mmh. Ouais, ouais.
Et puis c'est pas ça commence. Comme ça. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, s'il fallait citer votre spécialité, ce serait quoi ?
Waouh.
Il y en a plusieurs,
deux, trois. Non, bah écoute, notre spécialité aujourd'hui, je pense que c'est tout simplement d'essayer de respecter la saison. Complètement. D'essayer à attraper un peu, donc on veille beaucoup à ça quand on fait notre carte. Essayer à trouver les produits qui vont bien pour le moment. Le bichonner le plus possible. On a commencé, et c'est peut-être parce que j'ai envie aussi, mais on a commencé un travail un peu sur le végétal. Je trouve que c'est intéressant. De toute façon, on n'aura pas d'autre choix pour moi dans l'avenir que baisser un peu la consommation de protéines animales et justement augmenter un peu le végétal pour autant pour notre corps, esprit et pour la planète. Je veux dire, mais je fais pas une thèse là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui est anti. Je suis pas un végétarien ou des choses comme ça. Hein. Je suis, je mange tout. Mais c'est vrai que le travail sur le légume, c'est chouette. Ouais.
Bon, ceux qui n'ont jamais poussé la porte de l'épicurien, ici à Albion, mangent les menus à partir de combien, par exemple ?
Nous, on a un menu à midi qui est à 19,50. Et après, bon, on a un menu aussi le soir à 35 € avec deux choix d'entrée, deux choix de plat et deux choix de dessert. Et après, on a des menus à 45. Mais bon, on voit quand même que, comme je disais tout à l'heure, je pense que les gens veulent quelque chose un peu plus allégé. On ne veut pas s'engager dans des... Et ce n'est même pas une question de frais, hein, ce n'est même pas une question d'argent. On voit que les réservations, ça vient de plus en plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais bien, je veux manger. Donc, ça a changé... Ça avait déjà changé un peu avant Covid. Et je pense que le Covid a accentué un peu le truc. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est traverser cette mutation avec une capacité de s'adapter.
Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'épicurien, c'est pas pour la cuisine, c'est pour le vin. On m'a dit que vous êtes le GPS des vins, qu'ils soient nature ou pas. C'est vrai ça ?
C'est vrai que depuis... moi, j'ai goûté au vin un peu nature avec un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Deloume, que je dois beaucoup, il y a quoi, il y a 14 ans par là. Il était client au resto et c'est parmi un des plus grands dégustateurs en France. Les gens ne le connaissent pas comme ça, mais bon, il est très, très respecté dans le milieu. Donc c'est vrai que quand tu as commencé à travailler avec des vins comme ça, ce qui est marrant au début on peut penser que je vais être un peu rock'n'roll, je vais travailler les vins nature. Mais finalement, vu qu'il n'y a pas d'intrants chimiques, il n'y a pas de produits... farfelus dedans, oui, pour modifier le goût. Faut dire qu'aujourd'hui, un entre-plat dessert, c'est environ entre 600 et 700 et 800 grammes. Une bouteille de vin, ça fait autant. On rajoute un peu d'apéro avec une bouteille de vin, on est à 500 grammes de liquide par personne. Si cette liquide n'est pas bien faite, conventionnelle, avec beaucoup trop d'intrants chimiques, tu peux faire la meilleure cuisine au monde, hein. Ce que les gens vont retenir, c'est qu'ils sont mal digérés, ils sont passés mauvaise nuit, et c'est peut-être pas ton plat qui l'a fait, c'est peut-être les vins. Là. Bah, et après, tous les vins ne sont pas comme ça. Bien évidemment, il y a énormément de vignerons aujourd'hui qui travaillent super, super, super bien, sans pour autant être bio. Hein. Mm-hmm. Nous, on a des vins aujourd'hui à la carte qui ne sont pas bio, mais on connaît le vigneron, c'est comment ils bossent. Et le tendance veut aussi qu'on devient de plus en plus propre. Mais partout, hein, ce n'est pas que dans le vin. Hein, on voit que et c'est pas, je prône encore une fois, je prône pas le bio forcément, mais vers une nature qui est plus respectée, où les gens ont le moyen et disent, bah, écoute, je vais mettre peut-être 10 ou 15% de plus et je vais recevoir autre chose qu'on produit. Le grand industrie aujourd'hui, alimentaire ou vigneron, ou, bah, écoute, eux, ils travaillent sur le prix. Il en faut pour tout le monde, mais c'est vrai que avoir une bouteille de vin blanc ou vin rouge ou rosé où c'est juste marqué le cépage dessus et l'alcool, sans pour autant noter toutes les intrants qu'il y a dedans. Quand tu fais des denrées alimentaires, tu fais une préparation, tu es obligé de noter tout, quoi. Non, je trouve ça un peu dommage.
Ouais. Alors parlons de ce que vous avez concocté pour ce dîner des chefs.
Écoute, nous on a fait un dorade grillée avec des petits pois frais, un peu de lard de colonnata et on va faire comme une espèce de écume, une espuma, un peu de lard fumé. Donc on va avoir l'impression que c'est du poisson, mais on va avoir le goût un peu tout ce qui est petits pois, des lentilles, tout ça, ça adore le gras. En fait, hein, donc on va amener un peu de gras là-dessus. Et le côté grillé aussi, on va l'accentuer avec cette espume qui est, lui, un peu fumée. Donc voilà.
Mettez-nous un peu de l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on va manger là pour la mise en bouche?
Vous avez vu le menu. Il y a, je ne sais pas combien, mais je crois qu'il y a 8 plats. Donc on essaie de faire quelque chose de très, très léger. Hein. Encore une fois, on va travailler le petit pois parce que c'est un peu notre thème ici ce soir. Donc on a fait un pesto avec, on va faire avec des petits graissins et une autre petite sauce à dipper, juste comme ça, qui est à base de piquillos. Encore une fois, des meilleurs rallonges comme ça, oui. Il faut faire attention à ce qu'on fait au début, quoi.
Merci beaucoup, Ricard Hult. C'était un plaisir.
Merci à vous. C'était un plaisir.
Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Clair dans le brouillard, quand on arrive en haut, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut prendre en attendant, quand on arrive en vie.
Gastronomie aujourd'hui sur CFM Radio, le 19 mai dernier à l'Épicurien d'Albi, un restaurant où officie Ricard Hult. Le dîner des chefs de l'association Les Cuisineries Françaises s'est déroulé. Et parmi les chefs présents, faisons connaissance maintenant avec Sandrine Caramelli du restaurant Le Lautrec d'Albi. Sandrine Caramelli, bonjour.
Bonjour.
Alors, on se retrouve ici pour le dîner des chefs où, comme pour tous les autres chefs, vous avez préparé quelque chose, un plat. Vous nous le présentez ?
Oui, donc c'est le pressé de foie gras de canard du sud-ouest, extra, donc préparé en imprégnation de vin blanc sec, asperges et une crème de Parmigiano Reggiano, servie avec des tuiles de parmesan craquantes et des micro-pousses, en fait, de petits pois. Voilà, tout simplement.
C'est quelque chose que vous proposez déjà dans votre restaurant, le Lautrec d'Albi, ou bien c'est uniquement pour l'occasion là?
Non, non, je l'ai déjà eu fait, oui, au restaurant. Oui, oui. Oui, le foie gras est une spécialité du Lautrec, d'ailleurs. Hein, depuis 20 ans, il y a toujours du foie gras à la carte. Ouais. Et j'espère qu'il y en aura encore, malgré la grippe aviaire.
Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas simple pour le Sud-Ouest. Hein.
Oui. Ah oui, oui. On commence à parler que peut-être il n'y en aurait pas pour les fêtes, mais bon, pour le moment, ça va, j'arrive à en avoir. Et c'est du foie gras que je prends localement en plus, donc ça va, j'arrive à me débrouiller.
Bah alors, parlons un peu de votre établissement, le Lautrec à Albi. Là, on est vraiment au cœur de la cité. Hein. Quand on vient dans votre restaurant, au niveau de la carte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
La carte du Lautrec. Alors, c'est une carte qui suit les saisons, avec des produits donc 80% locaux, 100% fait maison évidemment, avec par le biais donc des maîtres artisans et des cuisineries gourmandes et des artisans du goût que nous allons fêter ce soir. Donc c'est une carte qui change toutes les saisons forcément. Et elle est variée, donc on a plusieurs plats, dont un plat signature qui est le cassoulet de l'archevêque, le fameux cassoulet de morue au safran et à l'ail rose de Lautrec.
Ah ouais, c'est quoi cette recette, la cassoulet, safran, ail rose de Lautrec? Oui,
c'est le cassoulet de morue, c'est un cassoulet typiquement albigeois que j'ai retrouvé dans un vieux bouquin en fait. C'est un cassoulet qu'on confectionnait au Moyen-Âge déjà. C'était le cassoulet en fait de l'archevêque parce que on ne devait pas manger de la viande les jours saints, les veilles de jours fériés, lors des funérailles, etc. Donc pour remplacer la viande, qui était interdite, on mettait du poisson séché. Et à l'époque, le poisson séché, c'est le poisson du pauvre, c'était la morue. Le poisson frais étant destiné essentiellement aux nobles, aux princes dans les rivières. Hein. Les paysans ne pouvaient pas pêcher. Donc on retrouvait ce poisson et on mettait ça dans les fabounades, enfin, ce qu'on appelait donc tout ce qui était haricots, en fait, fèves, cassoulets. Donc j'ai retrouvé ça et j'ai remis ça au goût du jour. Et ça, c'est un produit qui me suit depuis 20 ans, qui a été même présenté à l'Assemblée nationale et tout. Voilà, c'est le produit signature du Lautrec, entre autres. Et je revisite aussi des vieilles recettes de Toulouse-Lautrec. Voilà, retrouvé dans un bouquin aussi qu'il avait écrit avec un ami à lui, quoi, Maurice Schwein.
Donc c'est ça votre truc, aller fouiller dans des bouquins, dans l'histoire, dans le patrimoine, ou c'est complètement par hasard des fois?
Non, pas que. Donc là, c'est pour le côté terroir, mais après, non, c'est une cuisine revisitée, une cuisine fusion. Ce que j'appelle, moi, une cuisine d'hier à la mode d'aujourd'hui. Donc avec des imprégnations qui viennent de différents pays dans lesquels je voyage. Je reviens, je fais ma petite sauce avec les produits locaux, tarnés, et je revisite ça, donc un peu réunionnais, parce que mon second est réunionnais, un peu mexicain, parce que j'ai eu une chef qui était mexicaine. Enfin voilà, je fais ma tambouille un petit peu italien, évidemment, puisque j'ai des origines italiennes, d'où le Parmigiano Reggiano dans le foie gras du Sud-Ouest.
On se balade avec vous. Pourquoi avoir rejoint les cuisineries françaises là?
Oh ben, j'ai toujours été, depuis 20 ans que je suis restauratrice. Le restaurant que j'avais repris en gérance à l'époque, l'était déjà. Donc du coup, on a été enrôlés. Et finalement, j'y suis restée parce que on s'éclate avec les chefs. C'est bien de sortir un peu de chez soi, de voir les collègues. Ouais. Voilà, c'est entre nous, on s'éclate. Voilà. Puis ça représente ne serait-ce que la philosophie des cuisineries gourmandes, du 100% fait maison, du local. C'est de la cuisine vraie, surtout aujourd'hui. Bon, c'est pas évident, quoi, d'autres
alors,
choses. Mais...
Alors, j'ai la chance de discuter avec vous en tant que chef féminin, parce qu'on a le stéréotype comme ça dans la vie de tous les jours, les femmes à la cuisine, mais par contre, dès qu'on parle de restaurant, on en voit très peu finalement. Comment vous analysez ça, vous? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas les bonnes statistiques ou qui ne vois pas bien?
Vous savez que les premières chefs, c'était des femmes quand même, les mères Brasier, les sœurs Blanc, etc. Alors, pourquoi? Je sais pas. Je pourrais pas me dire. C'est physique, on dit en cuisine. Hein. Bon, cuisiner à la maison, c'est une chose, mais cuisiner au restaurant, c'est physique. Et c'est, je pense aussi, un problème des chefs hommes qui veulent pas forcément travailler des femmes. Je sais pas, parce que moi, je m'entends très bien avec les chefs hommes. Enfin, j'ai toujours travaillé avec des hommes et il y a aucun problème, en fait. Je sais pas pourquoi on n'en trouve pas, parce que, c'est compliqué au niveau des horaires, peut-être.
C'est juste un état de fait, quoi.
Voilà. Moi, je me suis pas posé la question. Ouais. Donc, personnellement, je vis très bien mon état de femme chef, propriétaire de mon propre restaurant, en plus.
Chouette.
Je vois pas trop et le problème, j'arrive même pas à le comprendre. Après, je sais pas.
Votre parcours.
Il y en a de plus en plus des femmes, hein, quand même.
Oui, c'est vrai. Ouais, de plus en plus.
Oui,
c'est pour qui en est peut-être de plus en plus encore. Dites-nous un peu votre parcours. Parcours classique.
Non, du tout. C'est un parcours très atypique, justement. Je suis autodidacte. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé pour un grand groupe agroalimentaire, que je ne peux pas nommer. nomme pas. Et après, ben, j'ai toujours aimé la cuisine, hein, faire jouer à la dinette quand j'étais enfant, tout ça. Et je voulais épouser un cuisinier. J'adorais jouer à le rebuchon. Je me disais, un jour, j'aurai un restaurant. Bon, les études ont fait que j'ai pas fait ça, parce que j'ai fait des études de droit, études de commerce. J'étais vite embauchée. Mais, et puis un jour, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé une location gérance libre. Et là, comme j'étais mutée à Paris, j'ai fait un choix. Paris, où je reste à Albi, j'accepte la location gérance pour un restaurant. J'ai dit chiche et on y va. Et c'est parti, ça a bien fonctionné. Donc après, j'ai pu acheter mon propre restaurant. Et voilà. Mmh. Et, mais je me suis formée donc, avec des grands, avec des moins grands, sur le tas. Mmh. Et puis voilà, toutes mes recettes sont inventées. Donc après, ça va tout seul. Enfin, voilà.
C'est génial.
Non, je n'ai pas fait des grandes écoles hôtelières. Je ne pourrais pas vous dire que je travaille chez des chefs étoilés. Je les rencontre. Mmh. D'ailleurs, bientôt, là, je vais avoir le privilège. Enfin, j'ai déjà eu le privilège pour Tokedok, de faire partie de l'équipe d'étoilés Michelin. Et là, donc, lundi prochain, je vais même être, disciple d'Escoffier, intronisé disciple d'Escoffier. Ah, oui. Je serai la première, d'ailleurs, chef tarnaise à être disciple d'Escoffier.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, disciple d'Escoffier, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente?
C'est une confrérie très ancienne, hein. Escoffier, c'est le pape de la Bible gastronomique, et donc cette association, enfin cette confrérie est mondiale et elle représente le top des confréries. Ouais. Je ne peux pas en parler là parce que bon, c'est voilà.
Bon, je reviendrai alors pour parler de ça.
Si vous voulez, oui, ouais. Voilà, tout à fait. Oui, ben, je sais, lundi l'intronisation, ouais. Mm-hmm. Et ils cherchent des femmes chefs justement parce que déguisant, moi une. C'est, voilà, donc je dis oui parce que bon, la philosophie Escoffier, elle rejoint beaucoup, hein, celle des maîtres restaurateurs, et des artisans du goût et des cuisineries. Hein, de toute façon, c'est le 100% fait maison, avec en plus une retransmission de notre savoir-faire aux plus jeunes. Là, on retranscrit tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a vécu. Cette expérience, ben, on la partage avec les futurs, enfin, j'espère, chefs de demain. J'espère qu'il y aura encore des cuisiniers sachant cuisiner, qui auront l'amour du produit de faire du 100% fait maison.
Voilà. Et pour goûter ce que vous faites, on peut passer donc à Albi, hein, c'est le Lautrec, c'est en plein centre-ville, hein, c'est pas très loin de la cathédrale. Hein.
Oui, c'est ça, dans les rues piétonnes, rue Toulouse-Lautrec, en face de la maison natale de Toulouse-Lautrec, et vous aurez l'occasion de pouvoir déguster nos plats dans les écuries du peintre. Voilà. Parfait. Mais elles sont nettoyées. Hein.
Merci. FM Radio La Suite, on continue à s'intéresser à ces chefs restaurateurs membres de l'association Les Cuisineries Françaises avec maintenant Monsieur Pascal Doucet du restaurant Les Deux Rivières de la Guépie qui commence par nous présenter le plat qu'il a proposé lors du dîner des chefs du 19 mai dernier au restaurant L'Épicurien d'Albi.
Alors c'est un suprême de volaille à la rhubarbe avec accompagné d'une gaufre à la pomme de terre. Alors j'ai fait sauter mes blancs de volaille, après je les ai cuits au four. Et après j'ai fait une petite sauce à la rhubarbe. J'ai fait revenir mes rhubarbes dans le beurre et après j'ai déglacé au jus de pomme et mouillé au fond de veau et monté au beurre. Voilà, tout simple. Voilà.
C'est une recette que vous proposez déjà dans votre établissement ou c'est non, particulier?
C'est une recette que je fais pour spécialement ce soir pour le menu des chefs, quoi. Comme c'est le thème, c'est le printemps et c'est le début de la rhubarbe, donc voilà. Donc,
c'est l'occasion.
C'est l'occasion de faire une recette. Alors pourquoi pas après le faire chez moi plus tard dans les menus du week-end. Oui, ça, ouais. On peut le retrouver.
Et tiens, parlons de chez vous, les deux rivières à la Guépie. Qu'est-ce qu'on y mange habituellement? On y mange de saison, de terroir ou expérimentation un peu culinaire?
Non, c'est une cuisine classique du terroir avec les produits de la région. Donc, comme moi je suis à la limite du Tarn et de l'Aveyron, et je suis dans le Tarn-et-Garonne, donc je travaille les trois régions, donc voilà, le canard, l'aligot, tout ça, voilà. Donc c'est une cuisine assez généreuse et conviviale.
Ouais. Votre spécialité, ou vos spécialités, s'il faut en citer quelques-unes?
Ma spécialité, j'ai une escalope de foie gras au porto réduit. Ça, c'est mon plat signature. Et après, je fais beaucoup de magret de canard aux fruits des saisons. Donc, je vais commencer là avec les cerises. Après, je fais les fraises, la pêche, les nectarines, la mandarine. Voilà, j'accommode le magret de canard avec tous ces fruits, selon la saison. Voilà.
Au niveau des tarifs, c'est accessible pour tout le monde. Les menus, ça démarre à combien chez vous?
Le premier menu est... Alors, moi, je travaille qu'avec un menu unique. Donc, le premier menu, il est à 30 euros. Et vous avez le choix avec deux entrées, deux viandes et un choix de dessert. Et après, vous pouvez faire plat, entrée plat ou plat dessert, qui sont à 27 et 24. Voilà. Et les menus changent toutes les semaines.
Toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous prenez votre camionnette et vous êtes chez les producteurs et fournisseurs.
Oui, voilà. Moi, je travaille, je change le menu tous les week-ends. Donc, il commence le samedi, puis après, il fait la semaine. Et après, le samedi d'après, il rechange selon les produits que je trouve, selon la saison. Voilà, c'est pour ça que ça permet de se renouveler continuellement.
Alors, vous faites partie de cette association, les cuisineries françaises. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche et pourquoi avoir rejoint cette association?
J'ai rejoint cette association des cuisineries gourmandes. Pourquoi? C'est une association qui défend la cuisine, qui défend aussi les producteurs, notre terroir et le fait maison. Quoi. Voilà, derrière toute cette appellation, il y a des vrais cuisiniers qui travaillent encore des vrais produits. Et voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint cette association.
Ouais. Et pour finir, vous avez le parcours classique des cuisiniers, c'est-à-dire formation en CFA ou autre formation professionnelle?
Non, oui, moi j'ai un parcours très classique. J'ai fait un apprentissage chez un patron, 3 ans, un CAP, et après, voilà, je me suis formé plusieurs années sur j'étais sur Paris, j'ai travaillé aux Antilles, j'ai travaillé après quelques années en Suisse, et après je suis venu m'installer à la Guépie. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes à votre propre compte, là?
Oui, je suis à mon propre compte. Ouais.
Ça change tout?
Ah oui, ça change tout d'être son propre patron. On décide de soi-même et on fait la cuisine qui nous plaît.
Ouais.
Surtout ça. Voilà.
Merci.
Merci.
Après les restaurants Le Lautrec et l'Épicurien d'Albi ou encore les deux rivières à la Guépie, maintenant c'est à Ambialet que l'on file à la rencontre de monsieur Jean-Pierre Seissé qui officie à l'hôtel-restaurant du Pont.
Alors l'hôtel du Pont, 6 générations d'hôteliers-restaurateurs installés donc à Ambialet, petit village super agréable des bords du Tarn, à 20 km d'Albi, avec une cuisine de terroir, une cuisine de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, avec des recettes traditionnelles, et une belle terrasse, un bel hôtel, des jolies chambres, et tout un panorama pour passer des excellentes vacances.
J'ai vu les photos, effectivement, le coin est super sympa. J'entends parler de cuisine de maman, de cuisine de grand-mère. Est-ce que je dois me dire que ce n'est pas un parcours de cuisinier classique ?
Oh si, dans le sens où quand vous avez 12 ans, que vous déjà vous trimballez dans la salle de restaurant ou dans la cuisine, forcément vous avez, et que vous êtes fils unique, puisque c'est mon cas, vous avez des fortes chances de continuer dans la cuisine. Alors effectivement, moi j'ai eu un parcours école hôtelière normal, et ensuite j'ai bourlingué un peu à droite et à gauche, pour revenir rapidement, assez rapidement, dans le giron familial, parce que ma mère me réclamait à corps et à cri, c'était elle qui était à la cuisine, comme je vous l'ai dit, mère et grand-mère. Et donc, me voilà bien ancré avec ma mère pendant de nombreuses années au fourneau de l'hôtel Dupont. Et puis, maintenant, depuis très très longtemps tout seul, et j'ai mené ma barque avec efficacité et puis surtout avec une ligne de conduite qui a toujours été la même, c'est-à-dire régaler mes clients et faire de ce lieu un endroit sympathique et surtout très convivial. Voilà.
La carte de l'hôtel Dupont, elle ressemble à quoi ? Pour nous donner un avant-goût un peu et l'eau à la bouche en même temps.
Alors la carte de l'hôtel Dupont, il y a trois plats qui sont relativement emblématiques, qui sont la poule Célestine aux olives. Alors Célestine, pourquoi ? Parce que mon arrière-grand-mère s'appelait Célestine. Alors je vous rassure, la recette ne date pas de mon arrière-grand-mère, on l'a réactualisée, etc. Mais l'esprit est toujours le même, donc c'est une poule en sauce avec des olives, des cèpes secs. Donc c'est un plat qui est assez convivial. Ensuite, le deuxième, c'est le haris d'agneau au girole, qui est aussi un plat emblématique, que les gens viennent déguster et se régaler. Et le troisième, ben, c'est l'agneau, et en l'occurrence, c'est souvent le gigot d'agneau, qui est cuit au four traditionnellement, et qui là aussi régale les convives. Voilà. Là,
d'ailleurs, c'est ce
après,
que vous
nous. On a aussi un peu de poisson de rivière, toujours, puisqu'on est, situé au bord de la rivière, donc on essaie toujours de mettre soit un peu de truite ou de cendre quand on a la possibilité d'en pêcher, bien sûr. Et puis après, à la saison, c'est les champignons, c'est les noix, c'est les noisettes, enfin, c'est tout ce qui nous entoure et toujours un circuit le plus court possible de manière à faire travailler aussi nos petits producteurs qui sont tous établis autour de nous. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me détailler un peu, ben, tiens, le gigot d'agneau à l'ail de Lautrec que vous nous proposez là ce soir ?
Bah, alors ce soir, il est tout simplement cuit au four. Donc il va être désossé, il va être garni d'ail à l'intérieur. On va émincer de l'ail, sel, poivre, et on va le laisser cuire au four, à feu vif, pendant, on va dire, une quarantaine, 30-40 minutes, suivant la grosseur. Et ensuite, on va le laisser refroidir. Donc les chairs vont se raffermir et la viande va reposer. Et ensuite, on va le servir donc ce soir tranché, rosé, parce qu'il faut qu'il reste rosé à l'intérieur. Et on va l'accompagner de petits haricots blancs traditionnellement faits en ragoût. Voilà. Et puis bon, l'ail de Lautrec, bien sûr, qui va accompagner, puisque le gigot est jamais, l'ail n'est jamais indissociable du gigot, et le gigot n'est jamais indissociable de l'ail. Voilà. Et l'ail de Lautrec a toujours une valeur extraordinaire dans notre département.
Ben, c'est un peu. C'est quoi de particulier cette ail de Lautrec?
Ben, il a un goût qu'on retrouve chez nul autre ail, que ce soit de Cadour ou de, je sais plus le nom, de Lomagne, mais c'est vraiment un ail qui est parfumé, qui repousse pas, surtout quand il est cuit. Un ail, quand il est cuit, il repousse pas. On sent presque plus le goût de l'ail. C'est un autre goût. C'est quelque chose de suave et de fondant. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'agressif. Et c'est vrai que les gens ont tendance à dire, oh, de l'ail, ça agresse. On va sentir l'ail pendant toute la journée. Non, c'est pas du tout vrai. Quand il est cuit, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Et donc, l'ail de Lautrec, qui est un label, et il faut être fier de notre région et de notre département et de nos produits. Donc l'ail de Lautrec fait partie des produits phares du département. Voilà.
Eh bien, écoutez, on passera vous voir. En oui, Bialet, vous êtes facile à trouver. En Bialet, c'est pas très grand.
Non, on n'est pas. En plus, vous ne pouvez pas nous louper. C'est l'hôtel du pont, il suffit de traverser le pont.
Merci Jean-Pierre.
Et pour ce dîner des chefs sur le thème du printemps, la surprise sucrée, pour ne pas dire le dessert, était concoctée par Nicolas Roussel de La Fourchette à droite à Albi.
Alors j'ai compoté un dessert de saison, donc une génoise au praliné noix de pécan, mousse à la fraise avec une compotée rhubarbe et une gelée au calamansi, une gelée au citron.
Ouais. Donc ça, ça fait partie du type de spécialité que vous proposez dans, dans votre établissement, ou bien là, c'est vraiment pour l'occasion?
Après, on change la carte 4 fois par an, donc au rythme des saisons. Donc la fraise et la rhubarbe étant de saison, on s'adapte en fait tout simplement à la saison pour faire ce type de dessert, ce type d'occasion.
Ouais. La fourchette à droite, je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, alors on est 7 places de l'Archevêché, entre la cathédrale et le Pont Vieux, face à la nouvelle porte du musée Toulouse-Lautrec.
Oui, et qu'est-ce que vous faites là-bas? C'est un restaurant?
C'est un restaurant, cuisine du marché. On est ouvert depuis maintenant 7 ans.
Okay.
Et on fait tout frais, fait maison.
Mmh.
Et on change la carte 4 fois par an.
4 fois par an.
Voilà, au rythme des saisons.
Bon, s'il y a une spécialité que vous pouvez me conseiller, vraiment le truc à ne pas louper quand on vient dans votre établissement, ce serait quoi?
Le foie gras, l'emblème du restaurant. Mmh. Après, on fait aussi les glaces maison. Et les gens viennent aussi voilà, pour l'opéra de foie gras, parce que c'est vraiment l'emblème du sud-ouest. Quoi.
Bon, ben, on ne va pas manquer de venir goûter le foie gras chez vous. Merci beaucoup, Nicolas.
Avec plaisir.
Les restaurateurs et artisans du goût de l'association des cuisineries françaises, ils sont conscients et éthiques dans leur démarche et ils seront heureux de vous accueillir dans leurs établissements. Il y a un site internet pour retrouver les adresses des différents membres de l'association des cuisineries françaises. Il y en a forcément près de chez vous, alors allez-y. De notre part, je remercie tout particulièrement Monsieur Ricard Hult du restaurant L'Épicurien à Albi, Madame Sandrine Caramelli du restaurant Le Lautrec à Albi, toujours à Albi. On remercie également Monsieur Nicolas Roussel de la Fourchette à droite. Du côté de Saint-Lieu-les-Lavaures, c'est Monsieur Christophe Messonnier qui officie au restaurant Le Col Vert. À Ambialet, on fait un coucou à Monsieur Jean-Pierre Cessay de l'hôtel Restaurant du Pont. Et enfin, à La Guépie, le restaurant Les Deux Rivières, c'est avec Monsieur Pascal Doucet. Des remerciements tout particuliers à l'endroit de Monsieur Claude Isard, le président de l'Association des cuisineries françaises, pour l'engagement et puis pour l'invitation. Et si vous avez pris le train en marche, sachez qu'une dégustation ultérieure vous est proposée sur le site internet de CFM Radio. Vous retrouvez ce numéro de Mieux vaut tard que jamais en podcast sur notre site internet. Passez une excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes.